comme les brillants entrepreneurs, épargnez chez Suno Assurance pour garantir le financement de vos projets. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous allons parler des brûlures. Se brûler superficiellement, c'est arrivé à chacun d'entre nous en manipulant un ustensile de cuisine tout juste retiré de la cuisinière ou en avalant une boisson trop chaude. Mais les services hospitaliers dédiés aux grands brûlés traitent des cas beaucoup plus graves qui souvent peuvent engager le pronostic vital du patient. Pour déterminer la gravité d'une brûlure, une série de facteurs entrent en jeu. L'étendue de la surface concernée, la profondeur des lésions, la zone touchée. On tient également compte de la nature de la source à l'origine de la blessure, feu, vapeur, rayonnement, produits chimiques ou chocs électriques, ainsi que l'âge du sujet. Et au niveau mondial, l'OMS recense 180 000 décès chaque année provoqués par ces brûlures, un fléau évitable qui concerne le plus souvent les ressortissants de pays à revenus faibles ou intermédiaires. Et parmi les plus vulnérables à la morsure des flammes, eh bien, ce sont les enfants. Des enfants qui subissent le plus souvent ces brûlures chez eux, dans la cuisine familiale, d'où l'importance de la prévention de ces accidents domestiques et de la diffusion des consignes à suivre en termes de premiers secours, conseils et avertissements aussi pour en finir avec d'autres gestes ou remèdes souvent véhiculés par le bouche à oreille et qui sont à éviter absolument. La prise en charge des brûlures, pour en parler avec nous aujourd'hui en studio, médecin en chef Thomas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du centre de traitement des brûlures au sein de l'hôpital d'instruction des armées Percy à Clamart et également avec nous Romain Carlier, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été prise en charge au sein de cet hôpital Percy. Il y a 2 ans, vous avez été brûlé sur 55% de la surface de votre corps. Une effroyable épreuve dont vous avez tiré un livre témoignage poignant. Ne sifflez pas la fin du match, publié aux éditions des Lumières de Lille. Livre sous-titré « Le match de ma vie ». La prise en charge des brûlures au Sénégal. Nous retrouverons tout à l'heure en ligne de Dakar le docteur Mansour Fall, chef de service de la réanimation chirurgicale et de l'unité de traitement des brûlés à l'hôpital principal de Dakar. Et nous retrouverons en ligne de République démocratique du Congo le professeur Anatole Kibadi Kapai, chef de l'unité de chirurgie plastique reconstructive et esthétique, chirurgie des brûlures au sein des cliniques universitaires de Kinshasa. Brûlure, reconstruction de la peau et recherche. Nous partirons avec Raphaël Constant, qui a visité le laboratoire de recherche Episkin à Lyon sur ce site. Un grand laboratoire cosmétique produit des tissus de peau reconstruites, utilisés pour tester des produits et évidemment aussi pour la recherche.
Priorité santé sur RFI.
Question très simple pour commencer, colonel Thomas. Quel type de brûlures sont prises en charge dans votre service?
Alors, dans notre service, sont prises en charge des brûlures suffisamment graves pour avoir besoin au minimum d'anesthésie générale pour les pansements et plus particulièrement des brûlures plus graves qui menacent le pronostic vital et qui nécessitent des soins de réanimation. Voilà les deux typologies de patients qui sont hospitalisés dans un service comme le nôtre. Hein. L'un des 15 centres de brûlés de France métropolitaine, 19 centres de brûlés en France en tenant compte des Outre-mer.
Alors, vous êtes médecin, vous êtes militaire, c'est pour ça que je vous appelle colonel Thomas. Vous travaillez à Percy, hôpital, structure militaire, mais très largement tourné vers la population civile.
Absolument. Notre centre de brûlés participe au service public hospitalier. En pratique quotidienne, on soigne une majorité de patients civils, mais notre raison d'être, c'est d'être en mesure de soigner les brûlés de guerre. Les brûlés de guerre sont dans les conflits dans lesquels les armées françaises sont engagées actuellement, heureusement, une éventualité peu fréquente. En revanche, les brûlés de guerre sont plus graves que les brûlés civils puisque un brûlé de guerre sur deux présente des lésions traumatiques associées et il faut donc un savoir-faire particulier, si bien que si nos patients militaires représentent une minorité de l'ensemble de nos patients, en revanche, ils représentent une part importante de notre travail puisque ils nous occupent plus longtemps et, compte tenu de cette sévérité supérieure.
Quand vous dites traumatique, c'est quoi? C'est sur le plan physique et mental?
Oui, tout à fait. Quand je parle d'un traumatisme associé pour deux brûlés de guerre, je parle essentiellement de traumatismes physiques, des associations de criblage ou de traumatismes balistiques à des brûlures, compte tenu des mécanismes qui sont au premier plan les explosions en matière de brûlures de guerre. pardonnez-moi, et d'autre part, effectivement, le risque qui concerne cette fois tous les brûlés, compte tenu de la sévérité de l'événement vécu, c'est le risque de traumatisme psychique associé, et ceci, pour le coup, n'est pas l'exclusivité des brûlés de guerre. Les brûlés civils présentent également ce risque.
Alors, le public connaît l'expression « grand brûlé ». Colonel Thomas, qu'est-ce que ça veut dire être un grand brûlé ?
Alors, un grand brûlé, c'est effectivement une expression grand public qui n'est pas vraiment une expression médicale. On considère typiquement qu'un brûlé est grave pour un adulte s'il présente plus de 20% de surface cutanée brûlée. 20% c'est beaucoup, c'est un cinquième de la surface du corps.
Il y a ces fameux degrés, premier, deuxième, troisième aussi dans le grand public.
Alors,
vous utilisez cette terminologie ?
Nous utilisons cette classification. Elle définit la profondeur des brûlures avec une particularité. Le premier degré, c'est le coup de soleil. C'est la peau juste rouge et le premier degré au sens médical n'est pas une brûlure et ne compte pas dans la surface cutanée brûlée. Ça fait mal mais ça guérit tout seul et rapidement. Donc la brûlure au sens médical commence au deuxième degré. Ce qui différencie le deuxième degré du troisième degré, c'est la capacité de cicatrisation. Le deuxième degré, c'est une brûlure plus ou moins profonde de l'épiderme et d'une partie du derme, avec une capacité de régénération spontanée de l'épiderme dans le deuxième degré dit superficiel, avec une capacité de régénération de l'épiderme, c'est-à-dire la couche superficielle de la peau, la couche externe de la peau, plus incertaine dans le cas du deuxième degré profond, et l'absence de capacité de régénération de l'épiderme dans le cas du troisième degré. Et dans ce cas-là, les brûlures du troisième degré, on est obligé de recourir aux greffes de peau pour obtenir leur cicatrisation, sauf si on est en présence d'une brûlure suffisamment petite pour qu'elle cicatrise par ses bords.
Alors vous avez été l'un d'eux, hein, l'un de ces grands brûlés, Romain Carlier, ça s'est passé il y a 2 ans tout juste. Est-ce que vous pouvez nous raconter les conditions justement dans lesquelles votre accident s'est produit ?
En fait, on finissait un parking d'une maison de retraite. Et en fait, j'étais derrière le camion pour remplir ma brouette. Et en fait, c'est au lieu de que la petite trappe soit ouverte, c'est la grande porte qui s'est ouverte et j'étais enseveli sous 7 tonnes d'enrobés. De goudron.
Donc oui. C'est chaud, c'est en fusion et vous travaillez donc chantier sur les routes, c'est bien ça, réfection de route.
C'est ça. Et c'est entre 150 et 180 degrés.
Est-ce que vous racontez dans votre livre comment vos camarades, vos collègues vous ont sauvé ?
Oui.
À ce moment-là, vous êtes conscient ?
Ouais, j'ai pas perdu connaissance. J'ai aidé mes collègues.
Vous les avez encouragés. Votre douleur vous a poussé aussi à leur dire sortez de moi de là.
Ouais, c'est ça. Exactement.
Et vous le dites, ils y ont mis les mains.
C'est ça, ils ont mis les mains, ils ont tout donné pour me sortir de là.
Est-ce que vous avez réfléchi après de savoir comment finalement vous avez résisté à cette douleur ? On imagine qu'être soumis à une telle terreur, à une telle douleur, ça peut on imagine qu'on peut perdre conscience, on peut perdre connaissance. Vous êtes resté éveillé jusqu'à quand ? Jusqu'à votre arrivée dans le camion des secours ?
Non, j'étais héliporté. J'étais héliporté, ils m'ont mis dans le coma artificiel et j'ai décollé, après je me rappelle plus de rien.
Colonel Thomas, accident professionnel dans le cadre Romain Carlier, brûlure provoquée par du goudron. Est-ce que justement la nature du produit, les conditions de l'accident conditionnent ensuite la prise en charge ?
Alors, pas directement. Il y a une particularité des brûlures par bitume, par goudron chaud, c'est le risque d'adhérence de ce bitume à la peau. Alors, dans un blessé qui a été blessé en milieu professionnel, en général, il porte des effets de protection, ce qui évite l'adhérence directe du bitume à la peau. C'est pas forcément le cas s'il y a des projections. Et lorsqu'on a une brûlure par bitume sur une zone découverte, l'une des complexités supplémentaires, c'est la nécessité de décoller ce bitume une fois qu'il a refroidi à la plaie. Ça se fait, il faut surtout pas essayer de tirer dessus. En fait, ça se fait lors des pansements sous anesthésie générale, éventuellement pas lors du premier mais lors du deuxième, puisque en réalisant un pansement gras, on peut solubiliser ce bitume et le retirer plus facilement lors du deuxième pansement. Pour le reste, ce qui conditionne la gravité d'une brûlure thermique, qu'elle soit par goudron, par flamme, par eau, etc., c'est la quantité d'énergie reçue par la peau. Et donc plus la température est élevée, plus il faut un temps d'exposition court pour avoir des brûlures profondes. Pour le reste, ça ne change pas la prise en charge.
Il y a un vrai problème qui se pose, c'est-à-dire qu'on voudrait agir pour soulager la personne dans l'urgence, on ne sait pas le faire. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire face à quelqu'un qui vient de se brûler, justement ? Là, l'éloigner de la source du danger, comme ses collègues l'ont fait, c'était indispensable. Sinon, vous seriez resté coincé, mort sous le goudron. On imagine bien, éloigner de la source du danger. Mais après, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on ne fait pas ?
Alors, la réaction, effectivement, c'est de soustraire la personne à la poursuite de l'exposition à la source de chaleur, ou à la source électrique ou chimique, dans le cas d'autres brûlures moins fréquentes. Effectivement, Il faut le faire le plus tôt possible sans mettre en danger les sauveteurs eux-mêmes. Je pense en particulier au cas des brûlures électriques où il faut s'assurer d'avoir coupé le courant avant d'intervenir naturellement. En ce qui concerne les brûlures thermiques qui sont de très loin les plus fréquentes, et ça c'est partout dans le monde naturellement, une fois qu'on a soustrait la personne à l'agent qui brûle, eh bien ce qui est recommandé c'est de refroidir les brûlures afin de limiter leur approfondissement tant que la peau reste chaude, on continue d'abîmer des cellules, de coaguler des protéines et donc d'approfondir les brûlures.
Ça veut dire que la fusion se poursuit dans la peau si jamais on ne met pas d'eau ou pas. Mais par contre, est-ce qu'on peut mettre quelque chose de plus froid que de l'eau courante? Est-ce qu'il n'y a pas un danger?
Alors effectivement, il y a un danger à mettre plus froid que de l'eau courante. Le but, c'est juste de ramener la température de la peau aussi proche que possible de 37 degrés rapidement. Mais il faut éviter d'utiliser de l'eau très froide ou a fortiori glacée. Parce qu'au contraire, si on utilise de l'eau trop froide, on va entraîner une réaction physiologique de l'organisme qui est ce qu'on appelle une vasoconstriction, c'est-à-dire un resserrement des petits vaisseaux sanguins qui alimentent la peau en sang. Et en fait, si on perturbe l'alimentation en sang d'une peau qui a déjà souffert, on risque au contraire d'approfondir encore ces brûlures. Donc, il faut refroidir avec de l'eau tiède ou à température ambiante, mais pas avec de l'eau glacée. Et d'autre part, il faut refroidir tôt, il faut refroidir assez longtemps, mais il ne faut pas refroidir une personne qui aurait été brûlée sur une trop grande surface, parce qu'on risquerait alors de refroidir le brûlé lui-même et d'entraîner cette vasoconstriction dont je vous parlais, de le mettre en risque d'hypothermie. Et ça, c'est un risque qui existe même dans les pays chauds, que vos auditeurs connaissent bien et que nous, militaires en opération extérieure, pouvons être amenés à connaître aussi.
Il y a quelque chose d'impressionnant quand on s'intéresse aux brûlures, c'est la multiplicité des terrains, parce qu'on va parler aussi bien du sauvetage, des premiers secours, on l'a entendu avec vous, après le coma, cette question de la douleur, et puis après cette question de la reconstruction et de se reprojeter dans l'avenir. Comment est-ce qu'on fait pour avoir quelque chose qui est une prise en charge aussi multidimensionnelle? On parle même pas là de multidisciplinaire, mais c'est multidimensionnel.
Absolument. Ça nécessite d'une part une chaîne de secours cohérente et bien articulée, avec d'abord une population formée au premier geste de sauvetage. D'autre part, des secours préhospitaliers organisés, capables de réagir, avec une chaîne d'évacuation adaptée. Et enfin, un maillage du territoire avec des centres multidisciplinaires de traitement de grands brûlés. Point sur lequel il est clair que dans des pays haut niveau économique, on est en situation plus favorable que chez, par exemple, nos camarades du Sénégal ou de République démocratique du Congo, que nous entendrons tout à l'heure. Ces centres sont des structures qui offrent l'ensemble de l'éventail des soins requis par un brûlé grave, de la chirurgie, de la réanimation, de la rééducation qui commence dès la phase aiguë, avec des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des médecins de médecine physique et réadaptation, des psychologues qui sont aussi hautement nécessaires compte tenu du traumatisme psychique qu'on a déjà évoqué, et réunir tous ces professionnels de santé autour de ces patients complexes, c'est l'enjeu des centres de brûlés.
Alors justement, tout à l'heure vous parliez ce coma dans lequel vous êtes plongé, bien sûr volontairement pour que vous ne subissiez pas cette douleur absolument insupportable. Romain Carlier, quel souvenir gardez-vous des premiers moments d'éveil?
Dur, très fatigué, c'était quelque chose de... Comment dire, fallait se battre pour rester éveillé en fait. C'est très très dur. J'avais encore la trachéo, j'étais encore intubé, donc c'était très très dur à se maintenir éveillé.
Vous décrivez un long calvaire dans votre livre. C'est une expression que vous employez vous-même: soins, anesthésie, greffe, pansement, la souffrance du corps. Mais peut-être que l'on retient davantage encore, c'est votre souffrance morale, mentale. Aujourd'hui, vous avez réussi à... Vous avez mis ces souvenirs sur le papier, cette douleur sur le papier, mais en même temps, il y a la douleur, mais il y a une volonté, il y a un espoir qui vous tient au corps. Et vous insistez tout au long de ce livre sur ce point, ce qui vous a tenu, tout ça, c'est aussi votre passion véritable pour un sport. Ce sport, c'est le rugby.
C'est ça, exactement. En fait, le rugby, c'est toute ma vie. Donc, dès que j'ai pu reparler, j'ai demandé au colonel Thomas si je pouvais recourir. C'était ma première phrase, mais c'est mon objectif. Dès que j'ai pu rester serein dans ma tête, c'était dès que je sors de là, je vais tout faire pour revenir sur les terrains et refranchir cette ligne d'essai que j'ai tellement franchie auparavant.
Et est-ce que l'accident vous a appris la patience?
Oui.
À changer de rythme?
Oui. Ouais, j'étais très très impatient avant et quand on est bloqué sur un lit d'hôpital pendant 5 mois et demi, donc faut être patient et prendre sur soi beaucoup beaucoup beaucoup.
Malgré
beaucoup
tout, pas mal de sagesse, mais pour autant pas de résignation.
Non, jamais. Je me suis dit, ça m'est arrivé, je m'en suis sorti. Maintenant, c'est à moi de tout faire pour revenir au niveau, quoi. Au top pour vivre ma vie. Ils m'ont sauvé, j'allais pas faire le...
Vous allez pas gâcher le travail.
C'est ça, j'allais pas me morfondre sur moi-même et tout gâcher, quoi.
C'était déjà, vous le dites, hein, plusieurs reprises. Je sais pas si le colonel Thomas qui vous a pris en charge dirait aussi, quand on dit miraculé, est-ce que c'est abusif ou est-ce que c'est vrai?
Ah, j'espère que c'est pas vrai.
Sans forcément la connotation religieuse. Hein. Attention, je mets bien les choses.
Ah, mais je respecte profondément
le respect. Mais quand même, quand on vient de loin, quoi.
Alors oui, on vient de loin. Il est clair que 55% de surface cutanée brûlée, c'est beaucoup. Effectivement, un brûlé sur 55% de la surface cutanée brûlée, ses jours sont en danger. On n'est pas sûr de gagner la bataille. Chez un homme jeune, en excellente santé, un sportif, on a déjà l'avantage de partir avec un organisme qui a une capacité de faire face qui est plus importante que chez une personne plus âgée ou qui présente déjà des antécédents médicaux significatifs. Donc, c'est un défi qui n'est pas gagné d'avance, j'avoue qu'on aurait été épouvantablement triste et terriblement déçu si on n'avait pas réussi à tirer d'affaire Robin Carlier.
Alors Robin Carlier, colonel Thomas, on vous retrouve dans quelques instants, on va partir tout de suite pour Dakar.
RFI.
Pour vous retrouver, docteur Mansour Fall, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes chef de service de réanimation chirurgicale et de l'unité de traitement des brûlés à l'hôpital principal de Dakar au Sénégal. Alors, votre établissement dispose, docteur Fall, d'une unité de traitement des personnes brûlées. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette unité?
Effectivement. Donc, je commencerai par saluer vos auditeurs et mes collègues, donc le professeur Thomas et le professeur Kibadi. Effectivement, l'hôpital principal de Dakar dispose depuis l'année 2009 d'une unité de traitement des brûlés au sein de la réanimation chirurgicale. Donc cette unité a permis donc de changer le profil de prise en charge et la stratégie de nos brûlés parce que tout en autonomisant, on a commencé déjà à les sectoriser au sein de cette unité et ce qui nous a permis d'autonomiser leur prise en charge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'ils n'auront plus besoin d'aller au bloc opératoire pour faire des pansements un jour sur deux. Étant donné que nous sommes des anesthésistes réanimateurs, certains spécialisés à la brûlure, donc les pansements sous anesthésie se font dans l'unité avec des baignoires fluidisées que nous avons acquis.
Et docteur Mansour Fall, eh bien cette réorganisation, on va dire, a permis vraiment d'améliorer les chances de survie des patients pris en charge.
Parfaitement. Parce que dans notre dernière série, sur 10 années de brûlure de 2003 à 2013, nous avions montré donc un taux de mortalité qui était relativement élevé parce que autant nous étions au début de la sectorisation, on avait un taux de mortalité hospitalière, je dis bien, qui tournait autour de 40%. Mais avec cette sectorisation, donc des soins plus efficaces et un risque d'exposition à l'infection nosocomiale carrément rabaissé, donc, on est passé d'un taux de mortalité élevé aux alentours maintenant de 27%. Par ailleurs, je pense qu'on y reviendra plus tard, je pense que l'autre aspect qui limite la prise en charge de nos brûlés, c'est l'accès difficile à la chirurgie précoce du brûlé, donc une certaine chirurgie plastique efficace qui les rend plus stables dans la phase de réanimation.
Alors, il y a des questions, on va dire, techniques, des questions aussi de disposition de blocs opératoires et de ressources. J'aimerais qu'on revienne tout de suite, docteur Mansour Fall, peut-être au profil des personnes que vous prenez en charge. On dit souvent que dans les pays, peut-être qui plus est encore dans les pays du Sud, beaucoup d'accidents domestiques, on va dire simplement dans la cuisine, c'est là où l'essentiel des accidents arrive, ou autour du feu, quand le feu est pris dehors, à l'extérieur ou dans la cour des maisons. Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants? Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui arrivent dans vos services?
Affirmatif. Pour revenir donc sur les circonstances de survenue, il y a trois circonstances et trois mécanismes. Les circonstances sont surtout dominées par les accidents domestiques qui sont autour de 64%. suivi des accidents en milieu du travail de 27%, et le reste, ce sont les agressions et les autolises qui sont vraiment faibles. Par rapport au mécanisme, le mécanisme effectivement thermique, comme partout, un peu partout dans le monde, est dominant, suivi du mécanisme électrique. Les brûlures chimiques sont rares dans nos pays. Effectivement, les femmes dans le cadre de la cuisson des activités domestiques et les enfants sont les plus exposés à ces accidents, à ces traumatismes. Donc, ce qui fait que dans le cadre de notre prise en charge, la pédiatrie comporte une partie très importante. Et d'où la nécessité d'investir encore une fois, comme l'a dit le colonel Thomas, sur une certaine prévention essentiellement basée sur une activité de sensibilisation, une prévention active avec des spots télévisuels et radiophoniques, et une prévention passive basée sur la mise en place d'une certaine législation par rapport à la limitation de l'eau chaude en milieu domestique, certaines mesures à prendre dans les milieux de construction pour prévenir les incendies, surtout en milieu domestique.
Alors tout à l'heure, vous parliez de certaines complexités dans l'accès à la chirurgie. On imagine aussi pour que ces types de blessures, eh bien, il s'agit d'hospitalisations de très longue durée. Forcément, complexité de payer les frais associés à cette hospitalisation, les pansements, la chirurgie. Et puis bien sûr, pour le Sénégal, la dimension régionale, problème d'accès à ce type de structure. Vous êtes unique, vous, au Sénégal.
Oui, parfaitement. Nous sommes confrontés à cette forte demande. On a fait certes des efforts à l'hôpital principal, parce que l'hôpital principal, je le rappelle, c'est un hôpital militaire qui a une vocation de médecine de catastrophe ou médecine en situation de guerre, comme a dit le professeur Thomas. Donc, mais on a une activité beaucoup versée à dominance sur les traumatismes dans le public. Donc, ce faisant, la prise en charge des brûlés, notre stratégie actuelle principale, vu qu'on a une difficulté d'accès à la chirurgie plastique précoce, c'est la cicatrisation dirigée qui passe par trois phases. La phase de détection, en général une détection chimique qui va prendre du temps lorsque les lésions sont profondes, suivie, si ça se passe bien, de la phase de bourgeonnement et enfin l'épidermisation. Et pour passer ces trois phases sur des lésions profondes, notre patient est dans une zone d'instabilité du fait du syndrome inflammatoire de réaction systémique que comprend bien mes collègues. Donc, d'où la nécessité pour tenir ces patients en milieu de réanimation d'une chirurgie d'excision greffe précoce. D'où l'importance, et comme l'a dit Thomas, je pense que pour avoir accès à cet ensemble d'acteurs, particulièrement chirurgicaux, au niveau de, pour la prise en charge de ces brûlés, l'idéal, c'est des centres spécialisés. Je pense que je peux revenir sur la stratégie qu'on a eu à mettre en place à l'hôpital principal pour optimiser donc la prise en charge que des cas graves. Donc à partir du service d'accueil des urgences, les petites brûlures, donc une surface cutanée inférieure à 10% aux enfants, ils sont pris en charge dans les services de chirurgie. Autour de 20% sans facteur risque, toujours dans les services de chirurgie. Mais lorsque la surface dépasse 20% avec facteur de risque ou largement 30%, ces patients graves et gravissimes sont pris en charge dans notre unité de traitement des brûlés. Pour les enfants, en général, quel que soit le niveau de gravité, ils sont pris en charge à la pédiatrie. Nous ne pensons que pour donner des avis. Et ça, c'est difficile parce que la pédiatrie est obligée un jour sur deux donc d'amener ses enfants pour faire des pansements au bloc opératoire. D'où notre stratégie, donc l'avancement, l'évolution qu'on est en train d'opérer pour passer à la création d'un centre de traitement des brûlés. Parce qu'effectivement, la sous-région a besoin de notre activité. Nous sommes devenus des référents, mais certes avec des facteurs limités. Mais heureusement, là actuellement, donc le commandement a pris toutes les dispositions nécessaires et on va évoluer vers la création de ce centre.
Merci beaucoup, docteur Mansour Fall. Et quand justement ce centre aura pris forme, on n'hésitera pas à vous recontacter, à reparler justement des progrès, de l'amélioration de la prise en charge des patients brûlés que cela offre. Je rappelle que vous êtes chef du service de la réanimation chirurgicale et de l'unité de traitement des brûlés dans cet hôpital principal de Dakar, au Sénégal.
RFI à Dakar, 92 FM.
Et on vous retrouve en studio, colonel Thomas, chef du centre de traitement des brûlures à Percy, Clamart. Romain Carlier, auteur du livre Ne sifflez pas la fin. On a envie de dire la fin du match, mais surtout la fin de mon parcours. Romain Carlier, la douleur, c'est quelque chose que vous avez connu peut-être en quittant Percy, parce que tant que vous étiez hospitalisé une bonne partie de votre parcours, vous aviez des antidouleurs. Malgré tout, quand est-ce que cette douleur se réveillait?
C'était surtout quand on faisait des exercices avec le kiné, tous les jours avec le kiné. Après, pendant les anesthésies générales, il travaillait surtout mes membres inférieurs, pendant que je dormais, bien sûr. Et non, surtout après les OP, les opérations et tout, j'avais beaucoup, beaucoup de douleurs. Et surtout en centre de rééducation, plutôt en centre de rééducation après, parce que on n'a pas de morphine, j'étais sous kétamine à Percy, parce que la morphine, elle me faisait presque pas passer à douleur, donc je prenais de la kétamine.
Quand on vous lit, on apprend quelque chose que le grand public ne sait pas forcément. Anesthésie générale tous les deux jours, quand on pense que certains disent « je vais renoncer à telle opération parce qu'il y a une anesthésie générale », est-ce que ce sont les mêmes produits, est-ce que ce sont les mêmes protocoles ?
Alors ce sont tout à fait les mêmes produits, et ce sont tout à fait les mêmes produits, c'est pas forcément les mêmes protocoles. Effectivement, un patient qui est hospitalisé dans un centre de brûlé comme le nôtre, en moyenne il reste un mois et il a 14 pansements sous anesthésie générale et 2,5 opérations chirurgicales sous anesthésie générale.
Quand on dit pansement, ça ressemble à des pansements communs qu'on met sur une blessure, ou c'est des matériaux, des gestes très différents?
Ce sont des gestes et des matériaux plus compliqués. On a un protocole de pansement qui est extrêmement exigeant, avec d'abord l'anesthésie, en tout cas dans la phase initiale de la prise en charge, pour pouvoir réaliser ce pansement dans des conditions de confort et de sécurité pour le patient.
Pourquoi? Parce qu'il faut retirer éventuellement de la peau, mettre des produits qui font mal, ou c'est simplement la simple manipulation qui est douloureuse?
Non, votre première hypothèse est la bonne, c'est-à-dire qu'effectivement, on a besoin d'un nettoyage soigneux. Comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, le risque infectieux est absolument majeur pour les brûlés. À l'heure actuelle, on sait réanimer à la phase initiale un brûlé, on sait éviter qu'il ne meure de son choc initial lié à la perte intense de liquide dans les premières heures. Et ça veut dire qu'à l'heure actuelle, la principale cause de mortalité des brûlures, c'est l'infection. Donc notre principal travail, c'est de lutter contre l'infection. Et le premier travail pour lutter contre l'infection, c'est de nettoyer, savonner, rincer, désinfecter.
Et ça rappelle le rôle de barrière indispensable de la peau.
Absolument.
La peau est lésée, donc l'organisme est totalement vulnérable.
Absolument, et cette vulnérabilité est encore renforcée par le fait que la réponse inflammatoire systémique à la brûlure qui a été évoquée par mon camarade le docteur Mansour Fall à Dakar, la réponse inflammatoire systémique a la particularité chez les brûlés d'entraîner une immunodépression, donc une diminution des défenses propres de l'organisme contre l'infection. Donc non seulement la barrière est ouverte, mais en plus si le microbe rentre, on a plus de mal à s'en débarrasser. C'est pour ça que l'essentiel de notre métier, c'est de lutter contre l'infection et contre ses conséquences graves pour l'organisme. Et c'est pour ça que des patients, comme Romain Carlier pourra vous en parler, sont chez nous un peu cloîtrés dans une chambre avec un régime de visite extrêmement contraignant pour limiter ce risque d'infection, et surtout un régime de précaution pour les soignants qui est absolument drastique.
Et vous racontez une anecdote assez significative. Des gendarmes viennent pour prendre votre déposition, pour raconter les circonstances de votre accident. Ils arrivent avec leur képi et leur microbe.
C'est ça, exactement.
Alors c'est sans doute un souvenir un petit peu perturbé par les bons produits que nous avons donnés à Romain Carlier pour qu'il n'ait pas mal, parce que nous ne laissons pas entrer les képis. Et les forces de l'ordre avec lesquelles nous collaborons sont parfaitement compréhensives et extrêmement respectueuses de ces protocoles de précaution contre l'infection.
Mais c'est dit sur le ton de l'humour, mais c'est important, parce que justement, des antidouleurs, là, on les utilise sans restriction, sans tabou. Vraiment soulager, c'est essentiel d'abord pour le patient, mais aussi parce que sinon on ne pourrait pas le soigner, colonel Thomas.
Absolument, c'est fondamental pour tous les aspects de sa récupération, à la fois de sa récupération physique, comme l'a bien évoqué Romain Carlier il y a quelques instants, on a besoin de contrôler la douleur le mieux possible. Alors le contrôle parfait est souvent difficile, ou alors on risque d'avoir un patient trop endormi, mais pour qu'il puisse réaliser ses exercices de kiné, il a besoin d'avoir une analgésie qui les rende possibles, pour qu'on puisse faire des changements de pansement et a fortiori des chirurgies, bien entendu. On a absolument besoin d'une anesthésie de qualité pour pouvoir réaliser ces gestes qui seraient impossibles parce que trop douloureux sinon. Et puis, bien entendu, la douleur, il est bien démontré que ça joue un rôle important dans les séquelles psychiques. Et donc, c'est un sujet sur lequel les dernières décennies ont vu, heureusement, de gros progrès dans la prise en charge des patients brûlés, à la fois par le traitement et la prévention de la douleur, et aussi par l'accompagnement nécessaire face à ces traumatismes gravissimes.
Romain Carlier, est-ce que vous avez craint à un moment donné l'accoutumance? Est-ce que vous avez connu l'accoutumance? Comment vous avez arrêté les antidouleurs? Aujourd'hui, vous ne prenez plus de cachet contre d'analgésiques.
Oui, c'est ça. En fait, si je voulais aller en rééducation, il fallait que je fasse mes pansements sans anesthésie générale. Donc on s'est mis d'accord avec le colonel Thomas que 2 semaines avant ma sortie, on a essayé les pansements sans anesthésie générale. Et donc on a réussi et donc je suis parti direct. En fait, ça m'a même mis un objectif encore en plus.
C'est pour important que pour vous d'avoir des cibles à atteindre, ouais, faut
toujours
y aller.
Toujours des objectifs dans la vie. Personnellement, c'est ça qui me maintient et qui, je pense, qui m'a sauvé aussi. Mais des objectifs dans la vie, c'est ça qui entraîne la guérison, je pense.
Et sortir comme ça, quitter l'hôpital, pour certains patients, quand on quitte, on va dire, un peu le nid douillet hospitalier, passer dans une autre structure, ça a quelque chose de déstabilisant, d'un peu effrayant. Vous n'avez pas ressenti ça? C'était vraiment aller vers autre chose, vers la guérison, encore une fois?
C'est ça, exactement. Excusez-moi, Thomas, c'était un soulagement quand même.
heureusement.
Il y a des gens qu'on quitte volontiers.
Ouais. Mais il y a eu un petit passement au cœur quand même quand je les ai quittés, parce que passer 5 mois et demi avec une bonne équipe de soignants.
Et on le lit dans votre livre, vous sentez vraiment cloîtré, confiné, ras-le-bol d'être enfermé, vous qui étiez un peu tout le temps dehors à courir.
Ouais, c'est ça, exactement. Après, passer 5 mois et demi sur un lit flux allongé à 38 degrés. C'est long, c'est très très long.
Et on n'a pas conscience comme tout change. Par exemple, un matelas pour nous c'est mou, pour vous c'était douloureux.
Oui, le matelas, un vrai matelas c'était douloureux. Donc avec le colonel Thomas, c'était avec un lit flux. Après on est passé sur un matelas rigide, semi-rigide, donc j'ai pas tenu, j'ai pas aimé du tout, donc on m'a remis sur un lit flux.
Parce que vous aviez des lésions particulièrement douloureuses sur le dos, hein,
oui,
c'est ça.
Peut-être qu'on peut expliquer
la localisation aussi.
Peut-être qu'on peut expliquer à vos auditeurs, hein, un lit fluidisé, c'est en fait un dispositif avec une espèce de soufflerie qui maintient le patient dans une sorte de lévitation sur un flux d'air permanent avec des toutes petites bits de silice sous un drap étanche aux bits de silice mais qui laisse passer l'air. Ça permet d'une part de répartir la pression du corps sur toute la face postérieure, donc de limiter les zones de pression. Et forcément, quand on revient sur un matelas normal et qu'on a une peau cicatricielle et la peau sur les os, puisque l'un des effets de la brûlure, c'est qu'on perd une masse musculaire absolument phénoménale, eh bien ces points d'appui qui, pour vous ou moi, ou aujourd'hui pour Romain, ne posent plus de problème, au moment où on est débarqué du lit fluidisé, comme on dit, ça peut être effectivement douloureux. Et le deuxième intérêt du lit fluidisé, c'est de limiter la stase, la stagnation de liquide, de sécrétion issue des plaies, et donc ça contribue également à la prévention de l'infection.
Alors on va tout de suite donner la parole aux auditeurs de Priorité Santé avant de partir pour Kinshasa.
Priorité Santé sur RFI.
Premier geste et remède. En ligne de Cotonou, hein, du Bénin, nous avons Zachary. Bonjour Zachary.
Bonjour madame.
Alors vous avez une question à poser au colonel Thomas, on vous écoute Zachary.
Ok, j'aimerais lui demander, lorsqu'on a une brûlure fraîche là, quelle méthode peut-on opter pour apaiser la douleur?
Est-ce que vous connaissez vous-même des méthodes que vous employez ou que vous avez entendues dans votre entourage par le bouche à oreille? Est-ce qu'il y a des méthodes, on va dire, un peu maison?
Oui, ce que nous avons l'habitude de faire, après une brûlure, on passe la pâte dentifrice là-dessus. Et non. Ça apaise la douleur.
Alors, la réponse à cette question, elle est que de façon générale, il faut éviter au maximum toutes les recettes qui se passent de bouche à oreille de grands-parents en parents en enfants à cause de leur risque de favoriser l'infection des brûlures. Alors, la pâte dentifrice, c'est peut-être un moindre mal par rapport à d'autres recettes encore plus préoccupantes, avec effectivement des mélanges de terre et d'autres choses qui nous surprennent à chaque fois. Le risque majeur pour une brûlure, c'est l'infection. Alors en revanche, effectivement, vous avez observé qu'en mettant de la pâte dentifrice, vous aviez moins mal. Ça n'est pas une bonne idée, mais effectivement, cet effet refroidissant est lié en réalité au contact avec un liquide. Et sur une petite brûlure, le meilleur moyen de lutter contre la douleur, c'est tout simplement de la passer sous l'eau fraîche, tiède, de façon, d'une part, à limiter l'approfondissement de la brûlure et d'autre part, effectivement, à limiter la douleur. Et puis, il est recommandé ensuite simplement de savonner doucement, sans frotter, cette brûlure pour éliminer les éventuelles saletés et de la couvrir avec quelque chose de propre, pas forcément stérile, parce que vous n'avez pas forcément ça à la maison, et puis de solliciter l'aide d'un professionnel de santé pour mettre dessus quelque chose d'adapté qui ne risque pas d'entraîner une infection.
Colonel Thomas, s'il y a une cloque, question concrète, s'il y a une cloque, est-ce que vous conseillez de percer ou de laisser faire ?
Eh bien, pas de percer. Soit la cloque est intacte et on peut la laisser en place parce qu'elle protège le socle, soit la cloque est percée et à ce moment-là, nous conseillons plutôt de retirer ce qu'on appelle le toit, c'est la peau qui est à l'extérieur de la bulle.
Qui se dessèche souvent d'ailleurs.
Tout à fait, parce que avoir une cloque percée mais avec son toit en place, ça présente un inconvénient, c'est qu'on a un gîte à microbes et pas d'accès pour les antiseptiques et le savon.
On risque d'avoir une couche intermédiaire qui risque de s'infecter entre les deux, quoi.
Tout à fait. Alors évidemment, ça a un inconvénient, c'est que ça fait mal de ne plus avoir de toit de bulles, comme on les appelle en médecine. Mais donc, soit on les laisse intactes, mais vraiment intactes, soit on part le toit de la flictaine, c'est-à-dire on enlève la peau qui s'est décollée pour pouvoir ensuite savonner, rincer, désinfecter et faire un pansement propre.
Un pansement propre, mais quand on va retirer le pansement, ça risque d'attacher la petite couche superficielle qui s'est créée.
C'est pour ça qu'on essaie d'utiliser des pansements non adhérents, soit en utilisant des crèmes antiseptiques qui permettront ensuite au pansement de ne pas adhérer lorsqu'on le retire, soit en utilisant ce qu'on appelle des interfaces, c'est-à-dire des textures non adhérentes, grasses ou siliconées. Il en existe pas mal et j'en ai pas de particulier à recommander.
Voilà, Zachary, pour la réponse très complète du colonel Thomas. On va partir tout de suite pour la RDC, rejoindre le professeur Anatole Kibadi-Kapaï. Bonjour professeur.
Bonjour madame.
Vous êtes chef de l'unité de chirurgie plastique reconstructive et esthétique, chirurgie des brûlures au sein des cliniques universitaires de Kinshasa. Avant d'aborder le cœur de votre travail, professeur, j'aimerais avec vous justement qu'on parle un petit peu de ces remèdes maison. Est-ce que beaucoup de personnes qui présentent des brûlures arrivent dans vos services avec des pâtes ou des produits bizarres sur leurs plaies brûlées ?
Oui, un grand nombre commence généralement par une automédication. Il y a ce qu'on appelle ici communément l'utilisation des plumes de lapin ou bien de pâte. Et ce genre-là arrive parfois, malheureusement, dans ces conditions-là.
Alors, est-ce que vous avez des données chiffrées en ce qui concerne les brûlures graves dans votre pays, professeur Anatole Kibadi-Kapaï ?
On ne dispose toujours pas en République démocratique du Congo des données épidémiologiques exactes sur les brûlures. L'incidence annuelle reste inconnue malgré l'existence du système national statistique médical, car bon nombre de brûlures font recours au traitement traditionnel ou à l'auto-prise en charge. Néanmoins, nous avons quelques données provenant d'une enquête que nous avons menée de 2010 à 2016 dans les principaux hôpitaux de la ville-province de Kinshasa, qui montre que la tranche la plus touchée est celle de moins de 10 ans. Et l'agent causal le plus fréquent est thermique par liquide chaud en ville ou par feu-flamme en milieu rural. Et la brûlure est essentiellement due à un accident domestique et la main et la partie du corps la plus touchée.
Alors, des enfants qui se blessent, pour parler concrètement, dans la cuisine, quand, par exemple, la maman est en train de faire autre chose, les parents sont en train de préparer autre chose, ces accidents domestiques, quelle prise en charge proposez-vous aujourd'hui à Kinshasa, professeur Kibadi-Kapaï ?
Oui, en termes de prévention, d'abord, c'est que le plus simple serait, comme l'accident domestique est le plus fréquent et que les premières victimes sont des enfants, ne laissez jamais alors les enfants seuls dans les zones à risque, dans cuisine, autour des marmites, des prises électriques, et être extrêmement vigilant avec des liquides bouillants, c'est-à-dire l'eau, soupe, huile. Mais en milieu rural, c'est généralement dû au feu-flamme. Alors attention aux bougies qui embrassent la couverture et envahissent l'ensemble de la maison. Attention aux feux de brousse, aux lampes à pétrole ou à lampes à huile, au charbon de bois. Mais je peux ouvrir une parenthèse, c'est qu'en milieu rural comme en milieu urbain, il faut faire attention aux comportements à risque. Par exemple, vis-à-vis des camions citernes transportant du carburant qui prennent feu. Les gens, au lieu de fuir, viennent récupérer le carburant. Explosion du camion citerne, suivie d'un grand départ de feu. Donc faites beaucoup plus attention à certains facteurs de risque.
Alors la prévention est maintenant du côté de la prise en charge. Peut-être d'abord les premiers réflexes à la maison et ensuite on va aborder justement votre prise en charge, vous, à l'hôpital.
Oui, à la maison, c'est comme l'a dit le confrère de Paris, nous conseillons d'abord de refroidir la peau avec de l'eau tiède. C'est vrai, théoriquement, il est dit une température entre 15 et 25 degrés, mais en urgence, ce n'est pas évident d'avoir, de vérifier cette température. Nous disons tout simplement l'eau des robinets. En plus, l'eau des robinets va diminuer la sévérité de la brûlure. Tout objet sur ou autour de la brûlure doit être retiré. Donc, bijoux, montres, vêtements, si les vêtements sont collés à la peau, ne pas le retirer, sauf si évidemment la brûlure provient des liquides écorrosifs. Donc en urgence, nous conseillons d'abord en RDC, les brûlures doivent être vues par un médecin ou un infirmier à l'absence du médecin, et cela immédiatement après l'accident. Donc il reviendra au médecin d'en déterminer la gravité, les types de traitements à restaurer, l'hospitalisation ou les suivis en ambulatoire du brûlé.
Professeur Kibadi Kiapai, je m'excuse, parce que le temps va nous manquer, hein, je m'excuse. Je voulais vous demander, quand il y a chirurgie, professeur Kibadi Kiapai, est-ce que votre structure effectue des greffes? Est-ce que c'est un recours possible dans votre structure de soins?
Oui, la réparation du corps des grands brûlés en RDC se résume essentiellement par des soins locaux de brûlure suivis d'une couverture des greffes cutanées. Nous avons de mèches graffes, donc ces expandeurs de greffons, et nous l'utilisons régulièrement pour la couverture de pas de substances étendues. Merci. Mais néanmoins, le grand défi reste pour nous la peau de remplacement, parce que plusieurs données, plusieurs molécules, plusieurs dispositions actuelles nous échappent, entre autres la greffe de l'épiderme ou bien tout ce qui est derme artificiel en fait.
Merci beaucoup pour toutes ces explications, professeur Anatole Kibadi Kiapai, chef d'unité de chirurgie plastique reconstructive esthétique au sein des cliniques universitaires de Kinshasa.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
Qu'est-ce qui va déterminer, colonel Thomas, s'il y a besoin ou non de greffe de peau?
Il y a essentiellement le potentiel de cicatrisation spontanée de la peau résiduelle sous la brûlure, c'est-à-dire la profondeur de la brûlure. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, une brûlure du troisième degré, sauf si elle est extrêmement petite, sera obligatoirement agréfée. Une brûlure du deuxième degré profond, c'est-à-dire une de profondeur intermédiaire, sera éventuellement greffée en fonction de son évolution, le risque étant l'approfondissement de cette brûlure sous l'effet de facteurs extérieurs liés à la gravité propre du patient, parce que je suis anesthésiste réanimateur, j'en ai pas trop parlé jusqu'ici, mais la sévérité des brûlures entraîne des défaillances d'organes, du système cardiovasculaire, de l'appareil respiratoire, a fortiori s'il y a eu lésion d'inhalation de fumée, des reins, du foie éventuellement, et tout ceci contribue à la gravité générale du patient et à l'approfondissement des brûlures. Donc des brûlures du troisième degré, sauf très petites, et des brûlures du deuxième degré profond, soumises à approfondissement par les facteurs que je viens d'évoquer, auront besoin d'une greffe cutanée, c'est-à-dire d'enlever d'abord la peau brûlée, de remplacer par la propre peau du malade.
Romain Carlier, je vais vous donner la parole tout à l'heure pour la conclusion, mais avant cela, on va partir pour Lyon, laboratoire de recherche Episkin. La recherche, justement, les greffes avec des tissus de peau reconstruites qui sont produits pour remplacer des tests sur animaux notamment, des tissus qui sont destinés pour l'instant à la cosmétique ou à la recherche. Et Raphaël Constant a suivi Nathalie Sellers, elle est directrice générale d'Episkin, justement pour une visite assez exceptionnelle de ce centre.
On arrive dans le couloir qui dessert les salles de production où on va reconstruire les différents modèles de peau reconstruite, que ce soit des épidermes, des peaux complètes qui contiennent épiderme et derme, ou alors des épithéliums qui sont finalement des muqueuses, comme par exemple la muqueuse de cornée, la muqueuse orale, vaginale ou gingivale.
Tout le long de ce couloir, on voit des laboratoires, il y a des grandes baies vitrées, du personnel technicien en blouse bleue à l'intérieur. Quels sont ces différents laboratoires ?
Tout part des déchets opératoires, puisque pour construire la peau, il faut de la matière première. Donc on va avoir des conventions avec des hôpitaux et des cliniques, où on va faire signer des consentements éclairés aux gens auxquels des déchets opératoires vont être prélevés. Donc on reçoit ça, et nous en parallèle, on fait des sérologies, HIV, hépatite B, hépatite C, pour protéger nos collaborateurs, mais également nos clients, quand on va leur envoyer le produit fini. Et là, on a ce qu'on appelle des digestions différentielles pour séparer ces couches. Parce que si on prend la peau et qu'on s'amuse à tout prendre en même temps, on ne va jamais pouvoir refaire cette structure de derme, épiderme. Donc on va d'abord séparer l'épiderme du derme, et ensuite, dans l'épiderme, je vais refaire une autre digestion enzymatique. Donc c'est un peu comme si on avait des mini-couteaux et des mini-fourchettes, et qu'on va s'amuser à isoler cellule par cellule. On va isoler cellule par cellule dans des sortes de flasques avec un milieu nutritif pour que les cellules se multiplient. Elles vont se multiplier et recouvrir la flasque, puisque les cellules de la peau, elles ont un principe, c'est qu'elles n'aiment pas le vide. C'est pour ça que quand vous faites une égratignure ou une coupure, ça ne reste jamais 2 semaines sanguinolent. Déjà au bout de 24 heures, il y a une croûte. Donc qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va faire en sorte de recouvrir toutes les zones vides de la flasque. Nous, dans notre jargon, on appelle ça un tapis cellulaire. Et une fois qu'elle a fait ce tapis cellulaire, on va les décoller, toujours avec des enzymes, et on va recommencer ça plusieurs fois. Et ce qui fait qu'à partir d'un prélèvement de déchets opératoires, on va avoir beaucoup de cellules, puisqu'on aura fait beaucoup d'étapes de multiplication. On va les congeler à moins 196 degrés dans de l'azote liquide. Ensuite, on va passer à l'étape de « je vais reconstruire ». Et donc au bout de 13-14 jours, je vais avoir mon épiderme qui va être prêt à être envoyé. Globalement, chaque année, on produit à peu près plus de 100 000 reconstruite, qu'on va ensuite expédier dans le monde entier.
Est-ce qu'il y a des applications thérapeutiques ?
Non. Nos modèles reconstruits sont principalement vendus pour des applications de testing in vitro pour les ingrédients et les produits finis. Nous ne vendons pas nos échantillons à des fins de greffe. Par contre, par le passé, L'Oréal a beaucoup collaboré avec des hôpitaux, des cliniques qui soignent les grands brûlés pour justement faire des partages de bonnes pratiques de reconstruction tissulaire pour améliorer les techniques de greffe. Une greffe va utiliser les cellules de la personne pour justement ne pas avoir de rejet lorsqu'on va déposer la peau reconstruite du patient, alors que les cellules utilisées proviennent de différents donneurs pour reconstruire les modèles de tissus.
Ce reportage, hein, colonel Thomas, l'épiderme cultivé en laboratoire à des fins de soins, ça existe ?
Oui, ça existe depuis les années 1980. Ça reste un usage assez limité aux brûlés les plus graves. En France, il y a un laboratoire universitaire à Lyon qui en produit à usage thérapeutique, et à Percy, nous avons un laboratoire qui fait de la recherche sur le sujet.
Romain Carlier, ne sifflez pas la fin. Hélas, on y arrive à la fin de l'émission. Oui. C'est le titre de votre livre. Votre objectif, rejouer au rugby. Est-ce que c'est fait ? Est-ce que c'est bientôt ?
C'est bientôt. J'ai recouru cet été. Ça allait. Après, j'ai eu 2 greffes de peau à ma cheville. Donc, j'ai ralenti un peu les efforts physiques. Mais normalement, cet été, on recommence à courir. Et la remise en forme sera activée.
Merci, hein, il faut vous donner le temps aussi. Livre merci. Publié aux éditions des Lumières de Lille. Merci beaucoup à vous, colonel Thomas, chef du centre de traitement des brûlures à Percy à Clamart. Et pour ceux et celles que la peau intéresse, exposition Dans ma peau à Paris, Musée de l'Homme, jusqu'au 3 juin prochain. On se retrouve demain, nous parlerons des troubles bipolaires.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Comme les brillants entrepreneurs, profitez d'une assurance épargne et réalisez vos projets en toute assurance. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.